Phil PM. Politique.
À mon avis, l'ambiance était très bonne. On a entendu des choses de comment nous pouvons travailler ensemble.
Notre rôle, c'est de rappeler au gouvernement fédéral que bien que la conclusion de l'entente avec le Mexique et les États-Unis, c'est très positif pour l'ensemble de l'économie. Nous aurions espéré que les tarifs de l'acier et de l'aluminium aient été réglés dans le cadre de la même négociation. Alors, ce n'est pas le cas. Et pour l'agriculture, même chose. Nous voulons voir les faits.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, on vient d'entendre au début, là, c'était Bill Morneau, le ministre fédéral des Finances, et par la suite, Éric Girard, le ministre québécois des Finances. Donc, c'est la rencontre annuel des ministres des Finances à Ottawa, et on va parler de ça et de bien d'autres choses dans cette table ronde, donc avec Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour Paul.
Salut Bernard.
Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour Carl.
Bonjour Bernard.
Alors tu vas nous mettre la table, Carl, puisque ça se passe à Ottawa, cette rencontre. Ça commençait hier soir, ça se poursuit toute la journée durant. Et puis évidemment, il est question de gros sous, notamment de péréquation, parce que c'est lors du souper d'hier qu'on a appris que le Québec allait obtenir un beau chèque de péréquation qui passe de 11,7 à 13 milliards pour l'an prochain. Là.
Exact. Et ça vient tout juste après la rencontre des premiers ministres. Alors, c'est pas surprenant que plusieurs des sujets dont ils ont parlé la semaine passée reviennent sur le tapis, notamment la fameuse taxe sur le carbone. Il y a l'Ontario et la Saskatchewan qui veulent une analyse complète de cette mesure fiscale avant de les imposer aux Canadiens. Même chose pour la bonification du régime de pension du Canada, qui est un autre enjeu qui, bon, on sait, en janvier, là, les gens, la cotisation au régime de pension augmente si on fait 55 000 $, ça va coûter 7 $ de plus par mois. Et ça, c'est sur une période jusqu'en 2023. Il y aura des augmentations constantes pour les employés et les employeurs. L'industrie pétrolière également, qui est au cœur des demandes des provinces, notamment l'Alberta et la Saskatchewan. Mais la grosse affaire, c'est la péréquation.
Ben oui.
Il y a des demandes de plusieurs provinces de revoir la formule, notamment la Saskatchewan, l'Alberta, Terre-Neuve et Labrador, qui se trouvent à être des provinces productrices de pétrole. Mais il y a aussi l'Ontario qui se joint à ce concert-là. Et c'est drôle parce que dans le cas de l'Ontario, ça fait 10 ans qu'il en recevait de la péréquation. Aujourd'hui, ils n'en reçoivent plus. Puis, ils décident de demander un recalcul de la formule. Évidemment, du côté du gouvernement fédéral et du ministre Bill Morneau, là, on peut l'entendre, on n'est pas très ouvert à ouvrir cette formule-là à ce moment-ci.
On a déjà eu une discussion au sujet de notre programme d'égalisation et ça va être dans la même situation pour les prochains 5 ans.
Très bien. Donc, ce qu'il dit, c'est que la formule va rester en place, la formule actuelle va rester en place pour les 5 prochaines années.
Oui, c'est ce qui est prévu, hein. D'ailleurs, c'est dans la Constitution, l'article 36, qui dit que il y a un mécanisme pour donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre pour qu'ils soient en mesure d'assurer les services publics à un niveau de qualité sensiblement comparable. Donc, c'est pour ça que c'est en place. Et là, j'ai un peu sursauté ce matin quand j'ai vu le Globe and Mail qui disait, Québec va recevoir 1,4 milliard de plus en péréquation alors que les provinces qui produisent du pétrole font face à des déficits. Or, évidemment, ça n'a rien à voir. Les déficits d'opération ne sont pas reliés à la péréquation. C'est évidemment la capacité fiscale des citoyens qui est en jeu. C'est ce qu'on compare. Mmh. Et là, c'est un peu, encore une fois, une manchette pour casser du sucre sur le dos du Québec.
Paul? Ni la première ni la dernière. Puis c'est facile de le faire parce que c'est un programme assez technique.
Oui.
Puis il faut prendre le temps de bien l'expliquer. Donc, c'est quoi l'objectif de la péréquation? C'est de permettre aux provinces d'offrir des services comparables. Et donc, pour ça, ben on regarde c'est quoi la capacité de chaque province de prélever des revenus. Et s'il y a des provinces qui sont moins capables que la moyenne canadienne de prélever des revenus, ben on les compense. Tout ça, encore une fois, dans le but que, peu importe dans quelle province tu habites, comme Canadien, tu puisses t'attendre à recevoir un niveau de service comparable.
Oui.
Le mot-clé, c'est capacité de prélever des revenus.
Exact.
Ça, parce que le Québec, on a des taxes et impôts beaucoup plus élevés, on le sait, que les autres provinces. Ben, une des raisons pour lesquelles l'Alberta, ils ont des difficultés, c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir la taxe de vente, ils ne veulent pas avoir le même niveau d'impôts que nous. Donc, ils ont une capacité à prélever des revenus, mais pour des raisons de philosophie économique, ils ne veulent pas le faire. Bon, c'est leur choix. Ils sont libres. Le Québec aussi est libre, mais c'est de là que vient une partie de la différence.
Mais là-dessus, je veux juste préciser, là, le Québec est la province où l'effort fiscal des citoyens est le plus élevé au Canada.
Oui, c'est ça.
On est on est à 125-130% de la moyenne nationale, alors que
non, mais est-ce que Alberta, c'est pour ça qu'on, est-ce que c'est lié à ça, le chèque de péréquation, c'est lié au fait que la fiscalité est plus importante
non,
au Québec, je pense
non,
pas.
Non, pas du tout. Non, c'est juste non, que la critique, non. C'est que tu vois des gens dans l'Ouest qui disent ben le Québec a équilibré son budget puis malgré tout ils reçoivent de l'argent alors que les provinces de l'Ouest elles sont en déficit et ne reçoivent pas de chèque de péréquation.
Oui, donc là, on explique pourquoi l'Alberta est à 70-75% de sa capacité fiscale par rapport à la moyenne nationale, sont en déficit, faudrait qu'ils reçoivent de l'argent du fédéral. Ça marche pas comme ça.
Faudrait, en fait, ce que tu nous dis, ce que vous nous dites tous les deux, en fait, c'est que si l'Alberta ne réussit pas à équilibrer son budget, c'est pas parce qu'elle reçoit pas un chèque de péréquation, c'est parce qu'elle taxe pas suffisamment.
C'est un des facteurs. On n'ouvrira pas le débat sur ça devrait quoi être le niveau de fiscalité raisonnable en Alberta. Ça, c'est un débat qui concerne les Albertains. Mais quelques autres commentaires, Bernard. Je comprends les gens en Alberta de dire, écoutez, notre économie, là, ça nous fait mal la fluctuation du prix du pétrole. Mais c'est pas à ça que sert la péréquation. Il existe un programme fédéral qui sert à compenser les provinces quand le cours des ressources fluctue beaucoup. Ça s'appelle le programme de stabilisation fiscale pour les ressources naturelles. Donc, s'ils souffrent avec le pétrole, qu'ils parlent de ça et non pas de la péréquation. Aussi, deux autres commentaires par rapport à la manchette.
Mais vous savez, les gars, vous me donnez tous les deux une réponse intelligente, technique.
Merci.
Mais franchement, sur le plan politique, c'est bon rien, votre affaire. Là. Pour les citoyens de ces provinces-là qui vivent actuellement une baisse des cours pétroliers, qui sont, dans le cas de l'Alberta, qui ont de la difficulté à sortir le pétrole de la province parce que les pipelines ne marchent pas, les projets de pipelines ne marchent pas. Eux autres, ils regardent le Québec qui reçoit un chèque de péréquation. Eux autres n'en reçoivent pas. Les Albertains n'en reçoivent pas, de la même manière que les Terre-Neuviens et les Saskatchewanais n'en reçoivent pas non plus. Et ils se disent, il y a iniquité. Iniquité. Ben, et c'est moi je pense que c'est là-dessus qu'il faut développer aussi un argumentaire là.
Oui, mais je te répondrais que eux ils font une espèce de maladie avec le Québec, alors que si tu veux calculer la péréquation, il faut que tu la calcules par habitant. La même façon que c'est absurde, par exemple, de dire que c'est l'Ontario qui va recevoir le plus de recettes fiscales du fédéral, mais c'est parce qu'il y a plus d'habitants là-bas. Là.
Oui,
calculons le chèque par habitant.
Par habitant,
le
c'est Québec.
Le Québec, c'est pas le bébé gâté, il arrive cinquième.
Oui, c'est le Québec qui en reçoit le moins.
C'est ça, c'est le Québec après l'Ontario. Là, l'Ontario n'en recevra plus, mais c'est le Québec qui en recevait le moins. Donc ça, c'est peut-être une des premières réponses que je leur donnerais.
Et l'autre chose qu'on peut ajouter, c'est que la population du Québec, c'est à peu près 22 % du Canada, mais la taille de l'économie, on est à 19 %. Donc l'écart, il est là. Puis je pense que l'argument que le Québec veut profiter de la péréquation, mais c'est mal comprendre que les Québécois voudraient que l'économie soit plus forte encore. Et je pense que c'est un peu l'objectif du gouvernement de la CAQ, c'est de sortir de ça. Mais c'est pas facile, là. Évidemment, il y a des conditions structurelles qui sont en place. On n'en a pas du pétrole, mais on en a peut-être en Anticosti, mais on n'ira pas là. Donc, il faut trouver autre chose.
Puis on n'ira pas là, entre autres, parce qu'on est loin d'être certain qu'on ferait de l'argent, mais on rouvrira pas ce débat-là.
Ouais.
Autre chose... Arrêtons de parler seulement de la péréquation. Parlons des transferts fédéraux dans leur ensemble.
Ah oui, ça, hein? ça
parce que la péréquation, c'est un peu moins du tiers des transferts fédéraux. La majorité, ça vient des transferts en santé et en services sociaux. Et si on calcule l'ensemble des transferts fédéraux, le Québec, à nouveau, arrive per capita dans la moyenne. Il arrive cinquième. C'est vrai que l'Ontario, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique en reçoivent moins. Par contre, il faut dire que depuis 20 ans, le Québec, c'est la province qui a été le plus désavantagée en santé et en services sociaux. C'est une des seules provinces où les transferts santé et services sociaux ont baissé alors qu'ils ont augmenté. Je te parle en pourcentage là, de l'assiette canadienne. Là. Donc quand même, il faut regarder le portrait d'ensemble. Puis je t'en ajouterai un dernier argument, celui qui va évidemment mettre nos amis de l'Ouest en beaujolais vert, celui d'une autre forme de dette, la dette climatique. Écoute, le Canada essaie de baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Puis les efforts substantiels qu'on a faits au Québec, là,
oui.
Depuis 90, ça nous a permis de baisser de 8 mégatonnes les gaz à effet de serre.
Ce qui n'est pas beaucoup.
Pas beaucoup. En Alberta, sais-tu, ils ont augmenté de combien?
Je sais pas.
De 88. En Saskatchewan, de 31.
Mégatonnes?
Oui. Ça veut dire que les efforts là, du Québec ont été d'à peu près de 15 fois annulés par les augmentations dans l'Ouest. Donc, si on se dit que comme pays, le Canada, on veut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais le Québec en ce moment fait une grosse job, puis à chaque fois que l'Alberta puis la Saskatchewan polluent plus avec leur industrie pétrolière, c'est des efforts additionnels pour les provinces non pétrolières. Donc, il faut aussi intégrer ça dans le portrait d'ensemble, mais je pense que ça, ils ne veulent pas nous entendre parler.
Oui, non, c'est un argument intéressant. Évidemment, plus nous, on baisse, plus c'est difficile de continuer à baisser. Parce qu'on est déjà rendu à l'os.
Aussi.
Hein?
Je répète les chiffres. Là, le Canada veut baisser ses émissions de gaz à effet de serre. L'Alberta et la Saskatchewan, ensemble, les ont augmentées de 120 mégatonnes.
En combien d'années, tu dis?
Depuis 90.
Hey, bye-bye. OK. On va s'arrêter. Au retour, on va parler de Huawei. Hein? Ça brasse avec la Chine. Carl, tu veux nous parler de ça. Et Paul, tu vas nous parler de Québec solidaire et la liberté de presse, là. Foutre à la porte des journalistes d'un conseil national. J'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. Parce que toi, t'as un petit côté QS, on le sait. Là. Ça, c'est chiant d'envoyer ça.
J'aurai la chance de me défendre après la pause. Circulation.
OK, de retour avec Carl et Paul. Paul, parle-nous donc de Québec solidaire et de la liberté de presse.
Oui, oui. Bien, pour répondre à tes attaques tantôt, c'est pas parce que je suis moins bien habillé que toi que mon intégrité en souffre. Ne l'oublions jamais. Écoute, que dire de plus? Québec solidaire expulse les journalistes pour un débat sur la façon de mener le débat sur la laïcité. C'est assez ironique parce que Québec solidaire, c'est quand même le parti qui dit qu'il faut augmenter la transparence, qui dit qu'il faut se rapprocher des gens, faire de la démocratie participative. Mais leurs militants, il faut rappeler que ce n'est pas l'exécutif, ce n'est pas les députés, c'est des militants de Québec solidaire qui ont dit « on exclut les journalistes » et c'est ça qu'ils ont obtenu. Je trouve ça d'autant plus ironique que, souviens-toi, quand Catherine Dorion avait dit qu'elle avait comparé les journalistes à une espèce d'escouade là, de l'URSS
oui.
À l'Assemblée nationale, j'étais là.
Un peloton d'interrogatoire.
La question qui lui était posée était très simple et elle lui était posée gentiment, c'était « Bouchard-Taylor, le débat existe depuis 10 ans. Êtes-vous d'accord ou non avec le compromis pour le port de signes religieux qui était exprimé dans le rapport et qui était la position antérieure du parti? » Et elle tournait autour du pot, elle ne voulait pas répondre. Puis là, quand les gens disaient « Ben là, soyez clairs, là. Puis là, quand elle compare ça à un interrogatoire de l'URSS. Mm-hmm. Première chose, l'URSS, leur problème principal, c'était pas un trop-plein de liberté de presse. N'est-ce pas?
Non.
Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus?
Oui, je pense que oui.
Et puis, là, s'il y a des gens qui ont été contre une certaine liberté de presse, et, ça a été Québec solidaire. Puis, en parlant de ça, il y a un clin d'œil qui m'a beaucoup fait sourire de la part de Sylvain Gaudreau, député péquiste et critique, entre autres, en matière d'environnement. Il s'est montré ce matin sur Twitter en disant « Regardez, je porte des espadrilles », avec une photo de ses espadrilles, suivie de « Maintenant que j'ai votre attention, voici les positions que je vais défendre à la COP24 ». Donc, tu vois qu'il y en a qui aimeraient ça pouvoir attirer l'attention sur leurs idées parce que je comprends que quand tu es député de l'opposition, des fois tu veux rêver, mettre de l'avant ta vision de la société, mais tu restes d'abord et avant tout un législateur et ton rôle, c'est bien beau rêver notre monde, mais il faut aussi que tu construises le rêve. Et comment est-ce que tu le construis? Avec des propositions concrètes de lois, de règlements, de politiques, bref, de faire ton travail de législateur, ce qui exige de passer de la politique peut-être plus de posture à une politique plus concrète.
Et là, tu vises pas personne en particulier quand tu parles de politique de posture.
Jamais. Je vis les derniers développements au Luxembourg, Bernard, m'inquiète beaucoup et c'est à ça que je réagissais.
Les derniers développements au Luxembourg?
Oui, tout à fait.
Ah oui?
Ben oui.
C'était pas Liechtenstein.
Non, Luxembourg. Moi, je suis pas du genre à confondre les deux, même okay. Si je suis incapable de les situer sur une carte.
Très bien, très bien. Merci, Paul. Je sais absolument pas de quoi tu parles, mais c'est pas grave. On va s'en aller parler de la Chine maintenant avec Carl. Qu'est-ce qui se passe, là? Est-ce que, là, on est pris entre la Chine puis les deux éléphants, la Chine puis les États-Unis. On n'a rien à voir là-dedans, nous autres. C'est les Américains qui nous ont demandé d'extrader la madame. On l'a arrêtée. Elle est dans une prison quelque part en Colombie-Britannique. Puis là, on est pris entre les deux. Puis comment est-ce qu'on va sortir de ça, là?
Ben, je ne sais pas comment on va sortir de ça. Écoute, la Chine, évidemment, fait des menaces. Elle a dit que l'arrestation en question était déraisonnable et vile par nature.
Oui.
Donc, elle demandait à l'ambassadeur de s'expliquer. Là, on fait face à des graves conséquences selon la Chine. Et là, ça a amené des conséquences immédiates. Le gouvernement de Colombie-Britannique avait une mission commerciale qui s'en allait vers la Chine cette semaine. Ils ont annulé ça pour pas faire face à des conséquences.
Qui l'a annulé? Les Chinois ou les Britanniques?
Non, le gouvernement de Colombie-Britannique a annulé ça. Okay. Et là, il y a un autre volet qui est arrivé en fin de semaine. Une entrée par infraction ou une tentative d'entrée par infraction au domicile de Mme Wang Zhu à Vancouver. La police est intervenue pour arrêter ça, mais qui est allé là? Pourquoi? C'est un point d'interrogation. C'est comme un film de James Bond et le Canada est un peu pris entre les grands joueurs. Ouais. Et là, il y a eu une déclaration bizarre en fin de semaine de John Manley, l'ancien vice-premier ministre, qui a dit on aurait dû comme la laisser partir. On aurait dû faire semblant de l'échapper. Ça aurait été mieux pour le pays.
Oui, ça c'est. Il y en a beaucoup qui le pensent, je pense, mais c'est rare qu'on entende un ancien ministre le dire ouvertement. Carl Bélanger, merci.
Salut.
Paul Journet, merci.
Merci.
Après la pause, les cas de meurtres non résolus qui reviennent, on va les regarder.